Grenoble-Alpes Métropole présente Le féminisme fait le printemps, quatre rencontres avec des personnalités inspirantes pour mettre en lumière certains enjeux des luttes féministes. Margot Collet, consultante et formatrice sur l'égalité femmes-hommes. Elle nous parle de politiques inspirantes menées en Europe pour mieux agir contre les inégalités et les violences. Elle est également co-autrice de « Beyoncé est-elle féministe ?» et « Autres questions pour comprendre le féminisme » et « Le féminisme pour les nuls ».
Merci beaucoup. Je monte sur mon petit podium, surtout pour avoir accès à l'ordinateur. C'est peut-être un peu inédit. Je sais que jusqu'à présent, je ne crois pas qu'il y ait eu de présentation PowerPoint, mais c'était aussi pour donner un peu plus de concret à quelque chose qui ne l'est pas forcément. Parler des politiques publiques, parler de la réussite des politiques publiques. Donc, je ne vais pas vous présenter des schémas énormes, mais peut-être quelques chiffres, quelques photos, quelques personnalités aussi qui ont contribué à faire des pays et des régions que je vais aborder ce soir, des exemples, des modèles inspirants en matière d'égalité entre les femmes et les hommes. Moi, j'ai particulièrement travaillé sur l'Espagne, j'en parlerai, mais j'ai pris beaucoup de plaisir à cet exercice d'aller dénicher pour vous des pépites de l'égalité entre les femmes et les hommes. Évidemment, c'est lié, le cycle s'appelle « Le féminisme fait le printemps ». Évidemment que tous ces exemples et toutes ces politiques publiques ont toujours été arrachées, obtenues, poussées, encouragées par les féministes où qu'elles soient, où qu'ils soient, en particulier dans les associations, dans la représentation politique et dans la recherche aussi, pour montrer quelles sont les politiques les plus efficaces. Et puis je trouve que c'est intéressant aussi de se mettre, quand on travaille sur les sujets d'égalité, je ne sais pas si c'est votre cas, ou quand on s'intéresse à ces politiques, on est souvent parfois un peu envahi par la fatalité, parfois un peu par la noirceur quand on travaille sur les violences. Et ce soir, j'avais envie de me mettre en mode optimiste, je crois qu'on en a besoin en ce moment, et de montrer que sur ces sujets, comme sur plein d'autres, il n'y a pas de fatalité, et que quand on met des moyens, de l'engagement, du portage politique, on obtient des effets. Et donc, en particulier, je voulais qu'on aille ensemble. Alors, comment on déniche des modèles européens? Alors, il y a plusieurs sources possibles. Il y a, par exemple, des classements qui existent depuis super longtemps dans le monde, en Europe, pour aller évaluer quels sont les pays où ça marche. Et c'est un peu une manière aussi de différencier qu'est-ce qui est de la com, qu'est-ce qui sont des plans qui ne sont jamais mis en place, et puis qu'est-ce qui marche concrètement dans la vie des gens. Il y a un des classements qui est un des plus anciens, qui est réalisé par le Forum économique mondial. Et il est intéressant parce qu'il existe depuis 2006. Et donc, ça permet aussi de mesurer les évolutions des différents pays autour de critères qui sont très objectifs. Ça va être combien il y a de femmes et d'hommes au Parlement, quelle est l'espérance de vie en bonne santé, quelles sont les inégalités de salaire. Et donc, avec des critères vraiment très, très objectifs. Donc, pourquoi j'ai choisi le premier pays dont je voulais vous parler, qui est l'Islande? C'est parce que l'Islande, c'est le pays qui est le premier au classement depuis 14 années consécutives. Donc, ce n'est pas un hasard du calendrier, ce n'est pas lié à une politique en particulier, c'est lié à quelque chose d'engagé, de long terme, avec des moyens ambitieux. Donc, l'Islande en tête du classement depuis 14 ans. Puis, globalement, dans le top 5, c'est beaucoup des pays nordiques, Norvège, Finlande, Suède. Et puis, pour vous, j'ai été voir ce rapport donc, qui vient de sortir en juin 2023 et j'ai eu la surprise de constater que la France a dégringolé de la 15e place l'année dernière à la 40e place. Ça peut s'expliquer par plusieurs facteurs. C'est une des plus grosses baisses dans ce rapport 2023. Ça peut s'expliquer notamment parce que d'autres pays sont montés. Donc, globalement, si on stagne, on perd des classements. Mais aussi parce qu'il y a eu des baisses de position sur les aspects économiques, revenus, inégalité de salaire, et sur, notamment, il y a un critère où la France a perdu de nombreuses positions, c'est le nombre de femmes ministres ou ministres déléguées à des postes stratégiques, comme les appelle le Forum économique mondial. Donc j'ai dit qu'on était en mode optimiste ce soir, donc je vous propose de partir en Islande. Donc première particularité, c'est un petit pays. Donc on peut se dire que quand on met des moyens, quand on met de l'ambition, quand on met des gens pour travailler sur une question, on peut assez rapidement, assez facilement obtenir des résultats. 380 000 habitants et habitantes en Islande. Premier au classement mondial depuis 14 ans. Et je voulais vous parler d'une thématique en particulier, mais évidemment, ce n'est pas la seule abordée en Islande. C'est la question des salaires et la question de l'égalité professionnelle, puisqu'on abordera d'autres thématiques pour les autres pays sélectionnés ce soir. Donc vous avez à l'écran la première ministre islandaise depuis 2017. Quand on va sur sa page Wikipédia, sur ses bios, c'est une femme politique, féministe, écologiste. Donc ça vient pas de nulle part aussi, les progrès qu'on a observés depuis quelques années. Mais ça n'a pas attendu non plus de 2017, puisque je le disais, l'Islande est exemplaire depuis plus d'une décennie. En Islande, il y a une vraie histoire de la mobilisation féministe et on en a entendu parler. Moi, je n'avais pas forcément connaissance de cet événement, mais c'est ressorti récemment dans les médias d'une grève des Islandaises le 14 octobre 1975. 90% des Islandaises se mettent en grève et remplissent les rues de Reykjavik. Donc c'est un moment, quand vous voyez les vidéos, quand vous lisez les articles sur cet événement historique, c'est décrit comme un événement où elles sont toutes là, mais c'est fou ce qui se passe, c'est incroyable. Il y avait du coup des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes réunies dans la capitale avec une grève à la fois professionnelle, mais aussi grève à la maison. Donc quand on voit des interviews, il y a des Islandaises qui racontent quand après on est rentré chez nous, on a senti, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est une légende urbaine, mais elle disait, on voyait que ça sentait le cramé dans les rues de Reykjavik, parce qu'en fait c'était les pères qui s'étaient mis à faire à manger pour la première fois, comme toutes les femmes avaient dit aujourd'hui je ne fais rien, et du coup ça a eu des conséquences très concrètes sur les odeurs de brûlé dans Reykjavik. En tout cas, c'est un moment historique et dont tout le monde parle encore aujourd'hui. Mais globalement, quand on regarde l'histoire politique aussi de la Suède, il y a plein de premières fois. De l'Islande. On pourrait reparler de la Suède aussi. L'Islande, c'est le premier pays au monde à élire démocratiquement une femme présidente en 1980. En Islande, les pouvoirs de la présidence de la République sont assez symboliques. C'est pas exactement comme la France. Mais quand même, c'est une femme, je prononce pas son nom par peur de l'égratigner, mais c'est une femme qui ne vient pas du milieu politique. Elle se présente comme une intellectuelle féministe et elle est élue à la tête de la présidence. Et elle sera tellement populaire qu'elle est reconduite 4 fois dans ce mandat. Et c'est elle qui décide de ne pas se représenter en 1996. Et donc, elle sera présidente de la République de 1980 à 1996. Si on regarde toujours dans le champ politique, et je trouve intéressant puisque c'est une initiative qui a fait un peu flop en France, en 1983, face au constat que les femmes sont ultra minoritaires à l'Assemblée, il y a 3 députées, il y a une liste qui se constitue qui s'appelle Association pour la constitution d'une liste de femmes. Donc c'est exclusivement des femmes qui se présentent à l'Assemblée nationale et c'est pas juste des femmes, avec tous les guillemets qu'on peut mettre, c'est qu'elles sont une liste féministe. Elles ont des revendications, elles ont des propositions à porter à l'Assemblée nationale en tant que féministe. Et du coup, ça contribue, pendant les élections législatives de 1983, à mettre à l'agenda plein de problématiques féministes, à mettre sur le devant de la scène les inégalités subies par les femmes islandaises, et à tripler la part des femmes. Elles passent de 3 à 9. Vous allez me dire, c'est pas énorme, mais à tripler, c'est conséquent, la part des femmes députées à l'époque. Et puis, il faut dire que le droit de vote en Islande, il est bien, bien plus ancien pour les femmes qu'en France. Elles votent aux élections locales depuis 1882 et elles votent à toutes les élections depuis 1915. En France, c'est 1944. Donc, autant dire qu'il y a aussi une histoire et une pratique de la citoyenneté pour lesquelles les femmes françaises ont été empêchées et du coup ont un retard aussi dans l'intéressement, dans l'implication sur les problématiques politiques en matière féministe. Et puis bon, alors voilà, c'est aussi peut-être, c'est moi des éléments que j'ai identifiés comme des explications, hein. Mais en tout cas, ce qu'on peut voir, c'est le résultat qui s'affiche à l'écran aujourd'hui en 2023. Un taux d'emploi beaucoup plus important des femmes en Islande qu'en France. Une parité plus importante, mais on peut préciser que c'est les numéros 1 en Europe en matière de parité. C'est le pays qui compte le plus de femmes députées. Elles sont 48%. Il n'y a aucun pays en Europe où il y a plus de femmes que d'hommes députés. Il y en a dans le monde. Peut-être c'est contre-intuitif, mais il y a 3 pays au monde où il y a plus de femmes que d'hommes. C'est le Rwanda, Cuba et le Nicaragua, où il y a des parts de femmes députées supérieures à 50%. Et ce, depuis plusieurs années. En tout cas, si on se recentre sur le continent européen, c'est l'Islande qui est numéro 1 avec 48% de députés. Et puis, enfin, un dernier élément qui est certainement lié à la question des inégalités professionnelles, même aux inégalités de salaire. Il y a un congé paternité ou congé du deuxième parent, puisque ce n'est pas réservé qu'au père, qui est beaucoup plus important et depuis beaucoup plus longtemps en Islande qu'en France. Aujourd'hui, chaque parent, mère, père, deux mères, ont le droit, suite à la naissance ou à l'adoption d'un enfant, à 6 mois de congés payés, avec un taux d'indemnisation assez important, donc 4 mois et demi qui sont non transférables. Donc l'idée, c'est de se dire, l'idée, c'est pas que si le père ne prend pas son droit, ça peut pas être transféré à la mère, c'est perdu. Donc l'idée, c'est d'avoir un effet incitatif pour que les pères s'en saisissent. À titre de comparaison, en France, le congé paternité ou d'accueil de l'enfant, puisque c'est pas réservé au père, ça peut être au beau-père, à la personne qui élève l'enfant avec la mère qui a accouché. On a doublé en 2021, on en a beaucoup parlé, mais c'est bien aussi d'aller voir du côté de nos voisins. On a doublé pour atteindre 28 jours. Et ces 6 mois, c'est la même chose aussi en Espagne, dont on parlera après. En Espagne, le congé maternité, le congé paternité sont équivalents, rémunérés de la même manière. Donc ça veut dire que dans ces pays, pour une entreprise, pour une administration qui embauche, en tout cas si les pères s'en saisissent, qui embauche quelqu'un globalement entre 20 et 35 ans, il y a exactement la même probabilité, le même risque que cette personne s'absente pendant 6 mois, que ce soit une femme ou un homme. Donc à long terme, ce sera hyper intéressant d'étudier est-ce que ça a un impact sur les discriminations à l'embauche et sur les inégalités salariales. Vous avez peut-être entendu parler de cette nouvelle en 2018. Et moi, ça m'avait beaucoup interpellée. Je n'avais pas été creusée plus que ça, mais depuis, j'ai été plus regardée. Il y a eu un certain nombre de titres, et je mets Le Monde, qui interpellent un peu. Premier pays à légiférer contre les différences de salaire entre hommes et femmes. Moi, je savais par exemple que la France, et je pense que vous le savez, a interdit les différences de salaire entre hommes et femmes depuis très longtemps. Depuis 1972, dans le Code du travail, il est marqué « à travail de valeur égale, salaire égal ». Donc les inégalités de salaire, elles sont interdites en France et elles sont aussi interdites en Islande depuis très longtemps. Donc il y a eu plein de titres un peu pas très bien renseignés ou un peu mensongers. Évidemment que l'Islande avait légiféré depuis longtemps pour dire que les différences de salaire étaient interdites. Par contre, ce qui est vrai et ce qui est une nouveauté, c'est que l'Islande a rendu ce contrôle automatique. Ce qui n'est pas du tout le cas en France, où en gros, s'il n'y a pas de contrôle de l'inspection du travail, ou s'il n'y a pas une femme qui estime que peut-être elle a le sentiment, parce qu'elle est tombée sur une fiche de salaire à la photocopieuse, ou parce qu'elle échange avec ses collègues, qu'elle est payée moins que ses homologues, sinon il y a très peu de moyens de s'assurer qu'il y a une effectivité des salaires entre deux personnes qui font le même métier, qui ont la même ancienneté. En Islande, le procédé est assez novateur. C'est ce qu'on appelle l'inversion de la charge de la preuve. C'est aux administrations, c'est aux employeurs de prouver qu'ils payent autant les femmes que les hommes quand les femmes et les hommes exercent le même métier, ont la même ancienneté, etc. Donc du coup, il y a un organisme indépendant depuis 2018. C'est obligatoire pour toutes les entreprises de plus de 25 salariés et pour toutes les administrations. Les entreprises doivent présenter des tableaux, doivent présenter tout un système de calcul. Et cet organisme leur donne ou non un petit certificat valable pendant 3 ans qui dit « c'est bon, vous êtes dans les clous, vous respectez l'égalité salariale ». Et si ce n'est pas le cas, déjà il y a des entreprises qui en ont pris conscience, qui n'avaient pas, pas du tout formulé une discrimination salariale, mais qui se sont rendues compte qu'il y avait des différences complètement inexpliquées, qui doivent du coup compenser. Et pour les entreprises soit qui ne rendent pas de compte, soit qui ne font pas de mesures de rattrapage, il y a des pénalités financières à hauteur de 400 euros par jour jusqu'à ce qu'elles rétablissent la situation. Donc ça peut aller assez vite, assez haut. C'est évidemment pas le seul élément d'explication, puisque je dis que cette loi, elle date de 2018. Mais si on regarde les chiffres, en tout cas l'Islande, depuis une décennie, a largement réduit les inégalités de salaire. Donc là, d'ailleurs, c'est assez mensonger, cette loi. Ce n'est pas une loi contre les inégalités de salaire, c'est une loi contre les discriminations salariales, c'est-à-dire pour des personnes qui font le même métier, qui ont les mêmes compétences, qui ont la même ancienneté. Le chiffre qu'on voit apparaître à l'écran, ce n'est pas des discriminations de salaire. C'est une réalité, une photographie qui permet de mesurer qu'aujourd'hui, les femmes et les hommes, en Islande comme en France, ne font pas les mêmes métiers. Les femmes aujourd'hui sont surreprésentées dans les secteurs les moins bien rémunérés, les moins bien valorisés. Elles sont surreprésentées dans les emplois pas qualifiés. Et plus on monte dans la hiérarchie, mais vous le savez, et plus les postes sont, plus les hommes sont surreprésentés, plus les hommes sont en proportion plus importante que leur place dans l'entreprise. Mais ça, quand même, ça permet de mesurer que, du coup, le travail de l'Islande sur les discriminations salariales, la question du congé paternité, bah, montre leurs fruits. Et leur objectif, bah, c'est de continuer à réduire ces inégalités salariales et de supprimer complètement, d'ici 2030, les inégalités de salaire, les discriminations salariales, du coup, à même poste, entre deux personnes qui font le même boulot, le même nombre d'heures et qui ont la même ancienneté. Et donc, dans un certain nombre d'entreprises, et c'est toujours intéressant de voir quand les associations féministes, quand les expertes du sujet saluent des lois. En général, c'est plutôt bon signe. Là, vous avez une représentante de l'Association islandaise des droits des femmes qui salue cette loi et qui dit qu'elle a enclenché une prise de conscience, parce que beaucoup d'entreprises, tant qu'on n'a pas les chiffres sous les yeux, on ne se rend pas forcément compte des écarts. Et que très concrètement, au-delà de la prise de conscience, il y a eu des rattrapages de salaire. Moi, j'ai lu des interviews d'une femme qui dit qu'elle a contribué à remplir les petits tableaux qu'elle devait rendre à l'organisme indépendant en tant que RH et qu'elle s'est rendue compte elle-même qu'elle avait un salaire inférieur. Et du coup, il y a eu une mesure de rattrapage immédiate qui concernait son salaire d'environ 100 euros par mois. Donc, ça a eu des effets quasiment automatiques. Ça, c'était l'exemple de l'Islande sur la question de l'égalité professionnelle. Et ça montre que quand on donne un caractère automatique, je pense que c'est ça qu'on peut retenir, en fait, on s'aperçoit assez vite qu'il y a des trous dans la raquette. Et ça permet d'avancer un peu sur cette question qui revient un peu que faire contre les inégalités salariales, comment faire en sorte qu'il n'y ait pas de discrimination. Il faut mettre des moyens. Il y a énormément de moyens dans cet organisme indépendant pour aller contrôler toutes les entreprises. Et il y a un caractère automatique, c'est-à-dire c'est pas juste on va faire des contrôles aléatoires, c'est à toutes les entreprises de rendre des comptes et c'est pas sur dénonciation ou sur saisine d'une victime. En France, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est aux victimes de discrimination d'apporter des éléments pour montrer qu'il y a des éléments matériels et concrets qui démontrent une inégalité de traitement en matière de salaire. Là, on fait le cheminement inverse et a priori, ça marche. Je vous propose de partir dans un autre pays, autre ambiance, autre situation géographique. Autre population aussi, on passe de 380 000 habitants et habitantes à une population de 47 millions de personnes. L'Espagne, moi ça fait plus de 10 ans que je travaille sur l'Espagne, mais jusqu'à ces dernières années, il y avait quand même un peu cette image et un certain nombre d'idées reçues sur Espagne, Italie, pays de macho. On l'entend moins, mais depuis très longtemps, l'Espagne est reconnue comme un pays pionnier sur la question des violences conjugales. Mais en France, avec un petit côté cocorico prétentieux, il y avait cette idée qu'on était meilleur qu'en Espagne, pays de macho où les femmes étaient empêchées de travailler et où il y avait beaucoup de violences conjugales. Peut-être que c'est une image qui est aussi l'héritage. Il y a eu 40 ans de franquisme avec une histoire très patriarcale, très sexiste, beaucoup de droits enlevés aux femmes. Mais avant le franquisme et après le franquisme, très vite, on a vu un mouvement social et féministe très, très actif, très exigeant aussi. Et puis une réponse politique qu'on pourrait qualifier sur les violences conjugales pas à la hauteur, puisqu'il y a encore des féminicides, mais en tout cas avec des ambitions et des moyens mis sur la table. Alors pourquoi on parle de l'Espagne? Vous avez peut-être entendu parler, j'ai l'impression que depuis 2-3 ans, on en parle beaucoup plus. En Espagne, donc depuis bientôt 20 ans, a été votée de manière transpartisane, tous les partis l'ont voté à l'unanimité, tous les partis représentés au Parlement, une loi qui s'appelle « Loi de mesures intégrales contre la violence de genre ». Je précise que la violence de genre en Espagne, ou en tout cas dans cette loi, c'est circonscrit aux violences exercées par les conjoints ou ex-conjoints ou partenaires sur leurs femmes ou ex-femmes ou concubines. On la qualifie en général de globale, d'intégrale. Pourquoi ? Parce qu'elle s'attaque à la fois au pan judiciaire, social, psy, droit du travail, des droits économiques. Et l'idée, c'est de faire un point d'entrée pour toutes les femmes victimes de violences et qu'elles aient une série de droits qui s'ouvrent à elles, mais aussi une politique très ambitieuse pour mettre fin à la récidive et prévenir les féminicides. Pourquoi on la qualifie de féministe ? Parce que cette loi, elle est très claire dans le préambule. Elle dit « La violence de genre est la violence exercée par des hommes sur des femmes parce qu'elles sont femmes ». Et ces violences sont le reflet de la domination exercée par les hommes sur les femmes dans l'ensemble des champs de la société. Donc cette loi ne s'exerce pas, par exemple, pour des violences physiques qui seraient commises par des femmes sur des hommes. Les tribunaux spécialisés de la violence de genre ne traitent pas des violences qui seraient exercées par des femmes sur des hommes. Évidemment que c'est interdit, en tant que femme, d'exercer des violences psychologiques et psychologiques sur son mari. Mais ça va être qualifié de violence intrafamiliale, de violence domestique, et pas de violence de genre, en considérant que ça n'est pas lié à un système de domination des femmes sur les hommes dans l'ensemble des champs de la société. Et cette loi de 2004, elle n'est pas venue de nulle part. Elle a, comme souvent, été impulsée, poussée par une situation, par un féminicide qui a beaucoup choqué l'Espagne, qui a aussi fait prendre conscience qu'il y avait une responsabilité de l'État dans la protection des victimes. Et cette histoire, c'est celle de Ana Orantes, qui est une femme qui, en 1997, a témoigné en direct à la télévision des violences qu'elle avait subies. Elle a une soixantaine d'années. Elle a subi des décennies de violences par son conjoint. Elle a porté plainte, il a été condamné, mais à l'époque, il n'y a pas de centre d'hébergement, en tout cas pas suffisamment, il n'y a pas de mesure de protection. Résultat, elle habite dans la même maison que son agresseur. Et du coup, elle dénonce cette situation, elle n'est pas protégée, il n'y a pas de mesure d'éloignement, il n'y a pas d'interdiction de rentrer en communication. 10 jours plus tard, Ana Orantes est assassinée dans des conditions atroces par son mari. Et du coup, ça a l'effet d'un déclic. Nous, on en a eu plein aussi, des situations très médiatisées comme ça en France, mais ça n'a pas eu le même effet qu'a eu l'assassinat d'Ana Orantes. Et du coup, toutes les associations et puis tous les politiques se mettent autour de la table pour dire « bon, bah là, il ne peut pas y avoir de retour en arrière, il faut une mobilisation nationale et ce sera la loi de 2004 ». Et puis, vous savez que les féministes, elles ne s'arrêtent pas au vote d'une loi. Donc, évidemment, la loi de 2004, il y a des trous dans la raquette, elle n'est pas suffisamment appliquée. Et donc, en 2017, on est avant MeToo, en 2017, est voté le pacte d'État contre la violence de genre dans un contexte de très forte mobilisation. Pour vous donner un exemple, le 8 mars 2015, donc il n'y a pas de MeToo, on est dans le contexte Ni Una Menos qui influe quand même en Espagne, Ni Una Menos en Amérique latine. Il y a 5 millions de personnes dans la rue en Espagne le 8 mars 2015 pour la grève féministe, sachant que la population espagnole est un tiers inférieure à la France. À titre de comparaison, pour les marches les plus importantes contre les violences ou même à l'occasion du 8 mars sous l'égide de Nous Toutes, les organisatrices recensent 100 000 personnes dans toute la France. Donc on a 5 millions d'un côté en Espagne, 100 000 personnes dans toute la France. Donc ça nous donne une idée aussi de comment cette question imprègne bien au-delà des associations féministes, bien au-delà des personnes qui se disent féministes et que c'est un vrai sujet de mobilisation sociale. Alors, qu'est-ce que c'est justement la politique espagnole ? Rapidement, d'abord, c'est une approche par les droits. Un numéro de téléphone comme il existe en France, mais qui est plus ancien, qui est ouvert depuis 15 ans, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, accessible en 53 langues. Déjà, ça donne un élément de comment on a connaissance de ses droits en tant que victime. Et puis, vous avez un exemple, à ma connaissance, ça n'existe pas en France, un guide des droits des femmes victimes de violences conjugales. Et vous le voyez en France, parce qu'il est traduit dans 9 langues étrangères, dans les 5 langues co-officielles en Espagne, et il est constamment actualisé. Ça veut dire que vous êtes une association, vous êtes avocat, avocate, vous êtes élu ou vous travaillez dans une administration, vous voulez savoir quels sont les droits, quelle est l'actualité des droits des femmes victimes de violences conjugales, bah vous avez tout au même endroit. En France, ça prend un petit peu plus de temps si vous avez déjà fait cette démarche. Au-delà, justement, c'est quoi les droits dont peuvent disposer les femmes victimes de violences conjugales ? Alors, à partir du moment où une femme est reconnue comme victime de violences conjugales, elle a le droit à une assistance juridique gratuite, à des consultations psychologiques gratuites, elle a le droit à des aménagements de son contrat de travail, des aménagements de ses heures, elle peut demander une mobilité géographique facilitée, elle a accès au RSA à partir de 18 ans, ce qui n'est pas le cas en France. Et elle a droit à des aides financières et plus de 33 000 femmes ont bénéficié d'une aide financière. C'est pas un prêt, c'est une aide financière en tant que femme victime de violences conjugales. Comment est attestée cette situation ? Il n'y a pas besoin de condamnation. Ça peut être une ordonnance de protection, un dépôt de plainte, sans qu'il y ait encore le jugement, ou, et ça c'est très innovant, un rapport des services sociaux, de l'administration ou des associations qui accompagnent cette femme pour dire que tous les éléments portés à la connaissance de l'association démontrent qu'elle est victime de violences conjugales. Donc la plainte n'est pas obligatoire, et encore moins la condamnation. En matière de protection des victimes, il y a un outil qui est une invention espagnole. Donc vous avez peut-être entendu parler, l'ordonnance de protection. Ça a été inventé en Espagne en 2003 et ça a été plaqué en France en 2010. Ce qu'on observe, donc l'ordonnance de protection, très concrètement, c'est une réponse apportée par la justice en moins de 48 heures. On n'attend pas un procès pour pouvoir prendre des mesures immédiates très très rapides. Éviction du conjoint du domicile, interdiction d'entrer en communication avec la victime, interdiction de l'approcher dans un périmètre à son travail, à l'école des enfants, interdiction d'approcher les enfants si on considère qu'il y a un risque, retrait du port d'armes, voire mise en prison, mise en incarcération préventive sans l'attente du jugement. Et donc cet outil qui est fondamental pour protéger, pour éviter le risque de récidive, il est 9 fois plus souvent demandé en Espagne, 9 fois plus souvent accordé en Espagne. Et donc on considère que c'est un des outils qui permet d'éviter les féminicides, puisque c'est souvent au moment où les femmes quittent leur agresseur, prennent la décision de partir, quittent les violences, qu'il y a un passage à l'acte et un féminicide. C'est pour ça qu'on dit souvent que le féminicide, c'est un crime de possession. Et c'est au moment où la femme, en général, prend son envol, trouve le courage, trouve les ressources de partir, qu'il y a un assassinat. D'autres mesures de protection qui existent en France et en Espagne, avec une comparaison, sachant que pour chacune de ces données, je n'ai pas rapporté à la population. Donc c'est x5 par rapport à la France, alors que la population espagnole est un tiers inférieure. Donc ça donne une idée, le différentiel est encore beaucoup plus important. Le téléphone grave danger, c'est un outil qui est mis à disposition des victimes qui peuvent contacter les forces de police en quelques minutes s'il y a une sensation de danger, si l'auteur, par exemple, n'a pas respecté son interdiction d'approcher la victime ou s'il y a des nouvelles violences qui sont commises. Elle n'a pas besoin de passer par le numéro d'urgence. Elle a un accès automatique et il y a une intervention qui doit intervenir dans les quelques minutes. Le bracelet électronique, je ne commande pas les chiffres, vous les voyez, c'est un dispositif qui n'est pas spécifique aux violences conjugales, au pied de l'agresseur, pour empêcher qu'il s'approche de la victime. Et sinon, les forces de l'ordre sont prévenues. La victime est prévenue pour se mettre en sécurité. Et là, vous voyez encore le nombre par rapport à la France. Et enfin, un dernier dispositif qui a fait ses preuves et qui semble vraiment efficace en matière de prévention des violences. C'est une plateforme qui s'appelle Viogen, pour Violencia Género, Viogen. Et l'idée, c'est que chaque victime qui se présente à la police est enregistrée. Donc chaque victime qui se présente est un cas, une situation. À l'heure où je vous parle, là, en juin 2023, il y a 76 000 cas enregistrés actifs. Donc ça veut dire que la femme s'est présentée à la police. La police fait une estimation du risque en lui posant un certain nombre de questions et en prenant en compte aussi son sentiment de à quel point elle a peur, elle est en insécurité ou pas. Et en fonction d'une grille, il y a des dispositifs policiers associés. Si elle dit « il s'est passé ça, je dépose plainte pour regarder une trace, mais je ne pense vraiment pas qu'il y aura autre chose », ou si, je ne vais pas donner des situations en considérant que ce n'est pas dangereux, mais vous voyez l'idée, si on considère qu'il n'y a pas de risque, il n'y a pas de danger, au minimum, on lui dit « voilà les contacts des associations, on réévalue la situation dans quelques jours ou dans quelques semaines ». Si la situation est considérée comme à risque extrême, ce qui est le cas de 16 femmes à l'heure où je vous parle, parce que toutes les chiffres sont accessibles en ligne, elles sont sous surveillance policière 24 heures sur 24, et les entrées et sorties des enfants de l'école, s'il y a enfants, sont sous surveillance policière. Et donc l'idée, c'est de se dire, selon le niveau de risque, on va éviter à tout prix, on va mettre tous les moyens en place pour qu'il n'y ait pas de féminicide à partir du moment où on a connaissance de la situation. En Espagne, l'idée, c'est de dire, si on avait connaissance de la situation, si la femme est venue à la police et qu'il y a eu un meurtre, la responsabilité de l'État est engagée. C'est un échec, c'est quelque chose qui aurait pu être évité. Et du coup, on met tous les moyens pour que ça n'arrive plus jamais. Et par ailleurs, je ne l'ai pas dit, les familles de victimes de féminicide, comme les femmes qui ont subi des lésions graves ou des handicaps suite à des violences ou des tentatives de féminicide, reçoivent des dommages et intérêts. Pour les familles, c'est assez similaire aux familles de victimes de terrorisme. Et il y a une histoire aussi en Espagne par rapport au terrorisme. Ce n'est pas les mêmes montants. Les associations féministes pointent le fait que les dommages pour terrorisme sont 10 fois plus importants que pour les familles dont une femme a été assassinée dans le cadre d'un féminicide. Mais en tout cas, il y a une reconnaissance de la responsabilité de l'État et du caractère systémique qui a contribué à cet assassinat. On a parlé de la protection des victimes, on peut s'intéresser aussi aux auteurs. Bon, je ne commente pas les chiffres plaintes, condamnations, vous les avez à l'écran. Il y a quelque chose qui est intéressant, je ne sais pas s'il y a parmi vous des gens qui s'intéressent au droit, mais il y a dans un même texte, dans un code, comme on pourrait avoir code pénal, code civil, code de la famille, un code de la violence de genre et domestique qui recense de manière actualisée, qui va piocher toutes les dispositions, tous les textes qui concernent les violences de genre et qui les recense de manière actualisée. Du coup, c'est super utile pour les associations, pour les professionnels, mais aussi pour les magistrats, pour les avocats et avocates peuvent, en tout cas, s'ils vont chercher la réformation, être tout le temps à jour des nouvelles dispositions législatives. Et puis, il y a un dispositif qui a fait ses preuves en Espagne et dont vous avez peut-être entendu parler, c'est les tribunaux spécialisés. Ils ont été créés avant la loi de 2004, ça date de 2003, donc ça veut dire qu'on a 20 ans d'expérience aujourd'hui sur ces tribunaux spécialisés. Et le concept, c'est quoi ? Ce sont des tribunaux où il n'y a que des juges qui sont spécialisés, donc ils ont été formés sur le sujet, ils ont une compréhension des mécanismes de violence, ils font ça toute la journée, ils et elles font ça toute la journée, c'est-à-dire qu'ils n'enchaînent pas un vol de scooter et puis après une situation de violence conjugale, ils ne font que des violences conjugales. Et deuxième particularité, ils et elles sont compétents aussi bien sur le civil que sur le pénal, c'est-à-dire qu'ils vont juger les violences, mais ça va être le même juge ou la même juge qui va décider du mode de garde des enfants, qui va décider du partage des biens, de l'attribution de la résidence principale. Aujourd'hui, en France, c'est complètement séparé, c'est-à-dire qu'il va y avoir un jugement au pénal, et puis parfois, des mois plus tard, un autre jugement, un autre juge, qui va décider, sans tenir compte, sans même avoir connaissance peut-être de la situation de violence conjugale, de comment on attribue la garde des enfants et comment on sépare les biens. Et on comprend que, évidemment, quand une femme est victime de violence conjugale, en général, elle va dire « prends tout, je lâche tout, je veux en terminer au plus vite ». Et en général, elles perdent énormément dans la séparation. Et puis, on sait à quel point les enfants, la garde partagée et les moments de visite sont des moments où les auteurs de violence conjugale continuent à garder l'emprise, le lien. On ne peut pas déménager quand il y a des droits de visite tous les 2 mois. On ne peut pas couper le cordon, couper le contact avec un ancien conjoint auteur de violences conjugales si on est obligé de le revoir tous les 15 jours. Pour terminer sur l'Espagne, on a des éléments aussi assez probants. En tout cas, c'est un peu l'objectif qu'on poursuit quand on travaille sur les violences, c'est diminuer les femmes victimes de féminicide. Vous avez à l'écran donc, le nombre de féminicides recensés. J'ai pris les chiffres officiels. Donc, en France, on n'a pas les chiffres officiels pour 2022 encore. On a le décompte des associations, mais on n'a pas le décompte du gouvernement pour 2022. Donc, j'ai pris les derniers chiffres officiels dont on dispose. 122 féminicides en France en 2021, 48 en 2021 en Espagne. Donc, ça veut dire que depuis le vote de la loi, l'Espagne a réduit d'un quart le nombre de femmes assassinées dans un contexte de violence conjugale. Et si on rapporte à la population, c'est-à-dire si on prend le nombre de femmes assassinées par leur conjoint ou ex pour 10 000 habitants, il y a 2 fois plus de féminicides en France qu'en Espagne. Et ça, c'est plus probant que ce graphique. Ça veut dire qu'il y a 2 fois plus de féminicides en France qu'en Espagne. Et alors, comme en Islande, ça ne vient pas de nulle part. Ça ne vient pas juste de dispositifs, puisqu'on a dit que les dispositifs existent de manière assez équivalente en France et en Espagne. Un certain nombre d'éléments que j'ai présentés ce soir, je ne l'ai pas dit, mais ils proviennent d'un rapport que vous pouvez retrouver en ligne du Centre Hubertine Auclair, qui s'appelle « Politique publique de lutte contre les violences conjugales en Espagne, regard croisé avec la France », que j'ai rédigé pour le Centre Hubertine Auclair. Et à l'époque, en 2020, on avait essayé de comparer, parce qu'il y avait beaucoup de débats autour du pacte d'État, y compris le gouvernement avait dit « c'est faux qu'en Espagne, il y a eu 1 milliard sur la table, nous on met plus, etc. » Donc on avait essayé de faire un peu la part des choses. Donc en Espagne, il y a bien eu 1 milliard supplémentaire, mais c'était réparti sur 5 ans, ça il n'y avait pas de doute. Et ce n'était pas 1 milliard en tout, c'était 1 milliard en plus par rapport à ce qui était déjà mis depuis des années. Et donc là, pour vous donner des chiffres actualisés, j'ai été regarder les budgets gérés par les ministres de l'égalité, donc Isabelle Rome en France, Irene Montero en Espagne. Donc c'est un des éléments de la politique de lutte contre les violences conjugales, mais ça nous montre ce sur quoi les ministres ont la main, ce sur quoi elles décident elles-mêmes, pas toutes seules évidemment, mais sans dépendre du ministère de l'Intérieur ou du ministère de la Justice. Et donc, toujours en ayant en tête le différentiel de population, 260 millions d'euros dédiés à la lutte contre les violences en Espagne en 2023, 32 millions en France. Et donc, rapporté à la population, ça nous donne, petit calcul mathématique, ça nous donne 10 fois plus de budget en Espagne par rapport à la France sur la question des violences. J'ai dit que j'étais optimiste, mais il y a quand même une actualité en Espagne qui pourrait laisser penser que... mais ça, on le savait déjà, qu'en matière de droits des femmes, rien n'est acquis. Il y a des gros changements politiques en Espagne en ce moment. Alors que jusqu'à présent, la question des violences était quand même saisie de manière transpartisane, à une exception près, c'est que le parti politique Vox d'extrême droite fait des recours devant le Conseil constitutionnel depuis des années pour dire que cette loi est contraire à la Constitution espagnole. Là, il y a eu des gros changements, un basculement dans beaucoup de majorités dans les mairies espagnoles. Et le premier truc qu'on observe, c'est la suppression des délégations à l'égalité femmes-hommes, avec des alliances droite-extrême droite, qui ont fait de ce sujet de l'égalité un sujet dans la campagne politique. Et moi, j'étais assez surprise, je me disais, et je raconte partout qu'en Espagne, ça y est, ça fait consensus. Ben, on voit que non, et que là, vous regardez dans toutes les grandes collectivités qui ont basculé, Tolède, Burgos, Valladolid, une des premières mesures, c'est la suppression de la délégation des mairies à l'égalité femmes-hommes, remplacée en général par familles, personnes âgées et handicap. Donc on a l'impression d'un recul de 20 ans en arrière, avec aussi une négation de cette question des violences de genre. Le parti Vox est très opposé depuis longtemps à cette formulation, lui préférant violence intrafamiliale. Désolée pour la petite note, mais c'est aussi pour montrer qu'il ne faut pas baisser les bras. Et même en Espagne, de manière assez surprenante, il y a un risque de retour en arrière. Et pour terminer avec un dernier exemple, je voulais resserrer pour montrer aussi que les marges de manœuvre ne se font pas qu'à l'échelle d'un pays et qu'il peut y avoir des initiatives parfois assez micro, assez locales, et nous attarder sur une autre thématique, l'espace public, l'urbanisme sur la ville de Vienne. Alors, je ne sais pas si vous saviez, mais Vienne est élue depuis 3 ans, et puis il y a plusieurs classements, comme la ville la plus agréable du monde. Alors, moi, je ne suis jamais allée à Vienne, mais tout le travail que j'ai fait pour préparer cette présentation m'a donné très envie d'aller à Vienne. Et Vienne, là, on va dire pourquoi on le considère comme un bon exemple, c'est sur la question de la prise en compte du genre dans l'espace public, dans la question des mobilités et même dans l'aménagement des résidences et des logements. C'est une question qui n'est pas forcément évidente, qui peut paraître un peu technique quand on en parle, mais en fait c'est très concret. Et là, typiquement, si on parle de la vie des gens, on parle de pour qui est aménagé l'espace, pour qui, quelle taille font les trottoirs, comment sont aménagées les résidences, qui va dans les parcs, qui va dans les espaces publics et qui à qui aussi bénéficie du coup des investissements publics. Pour la petite histoire, Vienne, on considère globalement que cette question de modèle sur l'urbanisme féministe ou l'aménagement de l'espace public d'un point de vue féministe, il a émergé au début des années 90, à l'initiative de cette femme, notamment, évidemment, il n'y a pas des révolutions par une personne, mais donc cette femme, c'est une jeune urbaniste, elle travaille à la ville de Vienne et elle a l'initiative d'une exposition qui s'appelle, pour ne pas vous dire de bêtises, qui s'appelle « À qui appartient l'espace public, la vie quotidienne dans la ville ?» Donc c'est une exposition qui met en scène le quotidien de 6 femmes dans la ville de Vienne, une mère célibataire, une étudiante aveugle, il y a plusieurs constats. Et puis à l'occasion de cette exposition, il y a une étude qui est menée c'est la première étude, avec des données sexuées sur les modes de déplacement des Viennois et des Viennoises. Et du coup, il est constaté que la majorité des automobilistes sont des hommes seuls, avec des trajets assez maison, travail, travail, maison, donc un déplacement le matin et le soir. Et 2/3 des piétons, 2/3 des déplacements piétons sont effectués par des femmes, avec des micro-déplacements, donc c'est-à-dire beaucoup de petits déplacements sur des petites zones, et elles sont souvent accompagnées soit d'enfants, soit parce qu'elles travaillent dans les métiers du soin, et donc elles sont avec des personnes dépendantes, des personnes âgées, elles travaillent dans l'éducation, donc c'est elles qui sont avec accompagner les enfants dans les activités, donc beaucoup plus de micro-déplacements et beaucoup moins d'usage de la voiture. Ce qui est marrant, c'est que Eva Keil, elle raconte qu'à l'époque, cette exposition est très très mal accueillie en interne par les services de la ville, et que les notes qu'elle produit, le programme, où il y a plein de gens qui valident, lui reviennent avec des remarques du style une expo sur la place des femmes dans la ville et pourquoi pas sur la place des chiens dans la ville, et que du coup, il n'y a pas du tout de soutien en interne, à part des élus et à part de l'élu en charge de l'égalité qui dit « cette expo, elle va se faire », même si vous n'êtes pas convaincu de l'intérêt du sujet, parce que ce n'était pas forcément évident, et du coup, il n'y a pas de sujet. L'expo est un énorme succès, il y a 4000 personnes qui vont voir l'exposition, et surtout, ça crée un déclic sur justement cette question de l'aménagement de l'espace public. À l'époque, Vienne est plutôt une ville avec beaucoup de voitures, assez grise, assez peu d'espace vert, et du coup, ça va amorcer un changement progressif, notamment parce qu'il y a un bureau des femmes, un bureau de l'égalité qui est créé au sein de la ville, et il y a un bureau avec un nom imprononçable qui est créé, mais c'est intéressant, un bureau de coordination pour la planification urbaine chargé des besoins des femmes, qui est rattaché à la direction de l'urbanisme. Et du coup, il va y avoir une vraie réflexion engagée, des moyens mis sur la table, et la première étude qui va être menée, ça va être sur tous les parcs de la ville, des sociologues qui vont interroger, et ça on le retrouve beaucoup dans la méthode viennoise aujourd'hui, qui vont interroger les gens, les adultes, les enfants, sur leur usage des parcs. Et le constat, c'est que globalement, il y a des activités pour les enfants. Quand les enfants sont accompagnés par leurs parents, c'est assez mixte. Mais que passé 10 ans, les filles disparaissent. Pourquoi ? Parce qu'on leur demande pourquoi il n'y a pas de filles, ou les quelques-unes, comment vous vous sentez dans le parc. En fait, comme beaucoup d'aménagements sont pensés via le sport, il faut, avec cette idée qu'il faut occuper les garçons, sinon ils vont faire des bêtises, du coup, elles sont exclues des parcs. Et puis, globalement, comme il n'y a pas assez d'espace vert, c'est ce qu'explique Eva Keil, quand il y a de la tension sur l'usage des espaces, c'est les plus forts qui gagnent quand il n'y a pas assez d'espace vert. Et du coup, là, en l'occurrence, c'était les groupes d'adolescents au détriment des adolescentes. Et du coup, à partir de là, donc on est dans les années 90, la ville de Vienne, la direction de l'urbanisme de Vienne, développe une méthode, une checklist qui va devenir incontournable et qui va permettre de réaménager tous les parcs et puis progressivement les espaces, les places de la ville au prisme du genre et du coup de l'utilisation aussi par toutes et tous. Et puis, dans la foulée, en 1997, ce que je n'ai pas précisé, c'est que Vienne est le premier bailleur social d'Europe. C'est-à-dire qu'il y a eu une énorme politique de logements sociaux parce qu'il y avait une pénurie du logement, et Vienne a gardé la main. La ville de Vienne possède 220 000 logements sociaux. Donc quand on a une politique féministe de réaménagement des résidences et des logements, on a un espèce de vaste champ expérimental, puisqu'ils ont la main sur leurs propres logements sur lesquels ils ont la main. Et puis il y a évidemment une politique de construction de logements, et il y a un quartier, donc qui veut dire Frauenwerkstatt, ça veut dire femme, travail, ville, qui est construit dans la suite de cette exposition. Et l'idée, ça va être d'en faire un laboratoire de l'urbanisme, de l'aménagement des résidences d'un point de vue féministe. Ce quartier, il a été construit par 4 femmes architectes. Il est encore aujourd'hui reconnu comme un quartier, un espace pionnier sur la prise en compte du genre dans l'espace public. Mais ce qui est marrant, c'est que les habitants et habitantes, ils ne le formulent pas forcément comme ça. Et globalement, ces termes un peu techniques de gender mainstreaming ou aménagement de l'espace public sensible au genre, les gens qui y vivent, et les Viennois et les Viennoises, quand ils sont interrogés, ils disent « Non, mais c'est super, Vienne, parce qu'on peut circuler facilement, c'est hyper bien aménagé, hyper bien pensé. » Mais en fait, ça bénéficie à tout le monde. Et tout le travail qu'il y a derrière, toute la réflexion qu'il y a derrière, qui était pensée pour les femmes, en fait, ce n'est pas forcément connu de tout le monde et ça bénéficie à tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'il a de particulier, ce quartier ? Il y a plein de petites choses, mais globalement, il y a une réflexion sur les parties communes. Donc, tous les couloirs, tous les espaces sont très grands, aménagés avec la lumière du jour extérieur. L'idée, c'est de donner envie aux habitants et aux habitantes de partager, de se rendre des services, que ce soit sur les tâches, sur les modes de garde. J'ai découvert qu'en Autriche, il y a beaucoup de machines à laver collectives, et souvent, jusqu'à présent, elles étaient au sous-sol, à la cave, dans un endroit pas très cool. Et là, l'idée, c'était de faire de ce moment quelque chose qu'on a envie de faire, donner envie aussi à des gens qui ne le font pas de faire les lessives. Et donc, les machines à laver sont installées sur le toit. Et il faut savoir que dans ce quartier, il y a 5 piscines destinés au grand public, dont 3 sur les toits. Donc l'idée, c'est vous lancez votre machine à laver et puis vous allez à la piscine. Vous pouvez faire d'autres trucs en même temps et c'est quand même plus sympa que de se retrouver dans la cave de l'immeuble. Les parkings souterrains sont éclairés par la lumière naturelle, donc pour donner aussi un sentiment peut-être plus de sécurité quand on va au parking. Et les parkings ne sont pas dans le quartier. Les voitures sont interdites dans le parking. Avec l'idée que il y a quelque chose qui est assez symptomatique de ce quartier, c'est que tous les espaces communs, tous les aires de jeu sont visibles depuis tous les balcons. Donc il y a l'idée, et il n'y a pas de voiture, donc les parents peuvent laisser jouer les enfants seuls en bas, il n'y a pas de risque avec les voitures, et puis ils ont une vision depuis chez eux. Donc l'idée, c'est de ne pas se retrouver avec des mères qui sont coincées au parc et qui sont bloquées là, sans pouvoir faire d'autres activités, mais de pouvoir avoir une vie sociale, de pouvoir faire d'autres tâches à la maison, et que les enfants soient visibles aussi, pas seulement des parents, mais qu'il y ait une espèce d'entraide aussi dans le voisinage. Et du coup, ce projet pilote, donc fin des années 90, il a inspiré une méthode et aujourd'hui, Vienne considère qu'il y a plus de 60 projets urbains qui ont intégré cette méthode, donc énormément de places, de construction de logements, de réaménagement de logements qui intègrent ce qu'on pourrait appeler une perspective de genre ou urbanisme féministe. Et il y a un nouveau quartier en cours de construction où là, la ville peut tester toutes ses hypothèses, un immense terrain de jeu. C'est un quartier qui est en construction, un éco-quartier qui s'appelle Seastat, qui est construit sur un ancien aéroport, qui va être un quartier énorme. Et là, l'idée, c'est de vraiment, voilà, d'en faire, c'est en cours de construction, donc 27 000 habitants d'ici 2030. Et donc, ce quartier, il est construit autour d'un lac, où il y a des milliers de personnes qui viennent se baigner chaque jour en été, un lac accessible. Et là, il y a marqué « Les femmes construisent la ville ». Et donc, l'idée, c'est de faire de ce quartier un laboratoire. Par exemple, toutes les rues ont un nom de femme. Donc, rien qu'avec ce quartier, la proportion de noms de rues à Vienne qui portent un nom de femme est passée de 9 à 14%, puisqu'il y a énormément de rues dans ce quartier. Et donc, ça a fait monter la part. Dans ce quartier également, les voitures sont interdites. Donc, il y a juste un axe où les voitures peuvent accéder. Mais l'idée, c'est qu'il y ait beaucoup de déplacements internes. Et il y a un objectif, du coup, qui est celui de Vienne, d'ailleurs. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du 20-20-20-40. C'est 20% des déplacements à pied, 20% des déplacements à vélo, 20% des déplacements en voiture et les 40% restants en transport en commun. Cet objectif est déjà atteint dans ce quartier et l'idée, c'est que ça puisse servir de modèle pour que ce soit le cas dans toute la ville de Vienne. Dans ce quartier, d'autres particularités, d'autres choses un peu intéressantes, les appartements sont modulables. Donc l'idée, c'est de se dire aussi, quand les enfants partent de la maison, bah, les gens qui restent, l'appartement est toujours adapté. On peut faire tomber des cloisons, on supprime des chambres, on en rajoute de manière assez légère, avec l'idée qu'on s'adapte à l'évolution de la vie, à l'évolution des familles. Il y a un certain nombre de commerces qui appartiennent à la ville, donc c'est-à-dire que c'est la ville qui choisit pour que les gens puissent bénéficier d'un coiffeur, d'une boulangerie, du minimum de services, et c'est pas soumis du coup à la loi du marché. Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus sur ce quartier ? C'est déjà pas mal. Mais l'idée, voilà, c'est assez cohérent. Je prends l'exemple de ce quartier pour donner des exemples concrets. Mais globalement, c'est une réflexion qu'il y a dans toute la ville de Vienne, qui a développé une expertise du coup aujourd'hui sur 3 aspects. L'organisation de la ville, les mobilités. Il y a eu énormément de trottoirs qui ont été refaits pour que tous les trottoirs fassent au moins 2 mètres, avec l'idée que les personnes à mobilité réduite, les personnes qui se déplacent avec des poussettes ne soient pas enfermées chez elles. Il y avait quelques années, une féministe qui avait proposé, en parlant de l'aménagement de l'espace public, d'élargir des trottoirs. Évidemment, le propos avait été sorti d'une vidéo beaucoup plus importante. Il s'agit de Caroline De Haas, et elle est encore victime de cyberharcèlement sur le fait qu'elle aurait proposé d'élargir les trottoirs. À Vienne, ça fait partie des politiques publiques, c'est évident, ça a montré ses résultats, que élargir les trottoirs n'est pas une mesure anecdotique, mais permet aux femmes de retrouver leur place dans l'espace public. Et puis, globalement, il y a aussi toute une réflexion sur toutes les places. Là, vous avez un exemple de cours en plein air sur une des places principales de Vienne pour montrer que c'est une réflexion qui va bien au-delà des logements, mais globalement sur la place des gens dans la ville avec beaucoup plus d'espaces verts. Et pour conclure sur Vienne, et c'est une interview d'Eva Kell aujourd'hui, hein, donc qui travaille sur cette question depuis 30 ans, elle dit... alors que ça n'avait pas forcément été pensé au début, qu'il existe une grande synthèse entre crise climatique et urbanisme sensible au genre, depuis sa perspective à elle, donc depuis la perspective de l'aménagement sensible au genre. C'est une chose qu'on en dit depuis longtemps. Les espaces verts sont très importants, tout comme le développement des transports en commun, mais même globalement, tous les schémas qui ont été pensés, théorisés par la ville de Vienne, qui produit plein de guides et plein d'évaluations de ce qu'elle fait, est tout à fait applicable aujourd'hui à une ville qui vise le développement durable, la réduction des gaz à effet de serre, la suppression de certains îlots de chaleur avec des espaces verts. Et donc ça montre aussi que quand on pense un urbanisme sensible au genre, je l'ai déjà dit, mais encore une fois, ça bénéficie à toutes et à tous, et en plus ça montre la cohérence avec les réflexions qu'on peut voir monter dans les villes sur la question, sur la question climatique. Et du coup, en conclusion, c'est, je crois l'avoir assez dit, mais ça nous montre que ces bons exemples, ils sortent pas de nulle part. On ne devient pas numéro un en matière d'égalité femmes-hommes du jour au lendemain. C'est le résultat de politiques ambitieuses, de politiques qui sont portées sans nuance et avec courage par des représentants et des représentantes politiques et qui y mettent des moyens. Des plans, des lois, ça ne suffit pas. Et on a vu dans tous ces pays que la question des moyens humains et financiers était fondamentale. Et ces politiques ne deviennent pas féministes du jour au lendemain. Évidemment, et c'est le thème d'aujourd'hui, que tous les pays dont je parle ont toujours été poussés sous pression des organisations et des militants et des militantes féministes. Et qu'en général, ces bons exemples, ils sont le résultat d'une alliance. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette notion de triangle de velours. La réussite, en général, c'est trois points des représentants et des représentantes politiques ambitieux, courageux, courageuses. La recherche féministe qui va montrer pour quelles raisons les parcs, les filles disparaissent, la recherche féministe pour attester les chiffres des violences. Et puis le troisième pilier, c'est l'activisme. Donc c'est des personnes qui vont mener des actions de terrain, mais aussi pousser, interpeller le grand public, interpeller les médias, interpeller les politiques. Donc ces trois piliers, la recherche, la représentation politique et les associations féministes, sont en général la recette pas magique, puisqu'elle existe pour devenir un exemple en matière d'égalité femmes-hommes. Voilà pour la présentation.
Merci Margot Collet. Et bien maintenant, si vous avez des questions, des remarques, ça démarre tout de suite.
Alors merci, déjà c'est extrêmement intéressant. Pour l'Espagne, je suppose qu'ils ont dû faire un effort énorme pour la formation des policiers, parce que c'est pas tout, mettre des lois, il faut que ça suive. Et je voulais savoir, est-ce que vous êtes au courant s'il existe un catalogue de cette fameuse exposition à Vienne ?
Ah, oui, il me semble avoir vu, alors c'est en autrichien,
j'ai
vu
pas mal de... Je parle allemand, okay. Ça me dérange pas.
Alors oui, il existe des ressources et des archives sur cette exposition dont je peux vous redonner. Mais si vous tapez Eva Kale Vienne.
Je le retrouverai.
Oui, c'est très documenté. Maintenant, il y a plein d'articles sur Vienne, la ville la plus inclusive, ou un modèle. Vous retrouvez les archives sur cette exposition.
Merci.
Et pour répondre à la question sur la formation, oui, en Espagne, il y a un gros effort qui est mis sur la formation. Je pense en particulier à la formation des magistrats. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas juste les magistrats et les magistrates qui siègent dans les tribunaux spécialisés dont j'ai parlé. Je ne l'ai pas précisé, mais qu'il n'y a que la moitié des plaintes pour violences conjugales qui sont jugées dans ces tribunaux. Donc ça veut dire qu'il y a quand même plein de juges qui ne sont pas forcément dans ces tribunaux spécialisés et qui traitent aussi des violences conjugales. Mais par contre, il y a un prérequis pour tous les juges, une formation obligatoire qui s'appelle « Juger avec une perspective de genre ». Et c'est une formation assez ambitieuse dans mon souvenir. Pour moi, c'est un mois de formation. Enfin, c'est plusieurs heures par jour pendant un mois de formation. Donc ça veut dire qu'on n'exige pas de la formation que des juges qui jugent uniquement les questions de violence conjugale, mais globalement de tous les magistrats et magistrates. Et donc ça va aussi sur la question du parquet, au-delà des juges du quotidien.
Oui, autrement, par rapport à l'exemple de Vienne, que je connaissais un petit peu, je pense qu'ils se sont aussi beaucoup inspirés de directives européennes, puisque l'Europe a été extrêmement moteur en matière d'égalité et sollicite l'ensemble des États membres pour qu'ils progressent dans ce domaine. Et il y a eu aussi, depuis une vingtaine d'années, le Conseil des communes et régions d'Europe qui a créé une charte européenne pour l'égalité hommes-femmes dans les territoires et qui permet de recenser un certain nombre d'actions, de politiques publiques à partir desquelles l'ensemble des collectivités locales peuvent s'inspirer. Donc on voit nettement dans les exemples que vous avez présentés qu'ils se sont inspirés de ce guide qui existe et qu'on essaye de diffuser. Alors moi, je suis une ancienne élue, je suis membre de l'association des femmes élues de l'Isère et on essaye de continuer ce travail de sensibilisation et de conseil sur les politiques d'égalité. Et donc, en fait, ça fait quand même une vingtaine d'années que ce guide existe et c'est vrai qu'on aimerait que les collectivités s'en inspirent davantage. Voilà, donc c'est bien de donner un exemple. Mais par ailleurs, j'avais une autre remarque. Il y avait l'association Que Choisir qui a fait un travail aussi très intéressant sous la houlette de Gisèle Halimi.
Il y a, Choisir la cause des femmes.
Voilà, Choisir la... la
que Choisir, c'est oui, mais, l'UFC.
Oui, mais qui s'appelle, la charte de l'européenne la plus favorisée et qui a permis de recenser l'ensemble des lois dans chacun des pays membres qui concernent les femmes et qui vont faciliter la vie des femmes. Moi, je trouve que ce bouquin, qui est vraiment très, très intéressant, mériterait qu'on en parle un peu et un peu plus pour que les gens, et notamment les décideurs, se l'approprient et permettent donc de progresser, puisque ce n'est pas la peine de réinventer ce qui a déjà été créé. Ce qu'il faut, c'est s'inspirer et faire en sorte qu'il y ait aussi... Enfin, l'idée de Gisèle Halimi, c'était de faire en sorte que les droits auxquels sont contraintes les Européennes soient les plus identiques d'un pays à l'autre, de façon à ce qu'on ait une élévation des droits et de la qualité de vie des femmes en Europe.
Et c'est certain que l'Union européenne a contribué à démocratiser, à théoriser ce qu'on appelle l'approche transversale du genre, donc c'est-à-dire considérer qu'il n'y a pas juste une politique spécifique dédiée aux femmes, mais que cette question des inégalités, elle doit imprégner à la fois la politique sécuritaire, la politique d'aménagement de l'espace public, l'éducation, et donc sans ça, on n'y arrivera pas, ce qu'on appelle le gender mainstreaming. Et typiquement, oui, la ville de Vienne s'en est inspirée, et c'est pas, d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai fait le focus sur l'aménagement de l'espace public, mais Vienne est aussi motrice, bon exemple, sur ce qu'on appelle les budgets sensibles au genre. Donc c'est-à-dire que la ville ne peut pas voter un budget, ne peut pas voter une décision au niveau du conseil municipal sans qu'on ait évalué l'impact potentiel que ça pourrait avoir sur les femmes et sur les hommes. Et on regarde aussi à qui bénéficie, on l'a vu sur l'espace public, mais à qui bénéficie l'argent public. Dans quoi investit la ville et qui sont les bénéficiaires, les usagers et usagères de tous les aménagements. Je prends un exemple peut-être pour illustrer ça. Moi, j'habite à Bordeaux. Il y a eu une grosse étude sur les budgets mis dans les aménagements sportifs. Tous les quais qui étaient assez délabrés, mal famés, il y a eu un énorme champ de réaménagement. Et du coup, il y a eu énormément d'aménagements sportifs. Et ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'en fait, ça n'avait pas du tout été pensé d'un point de vue du genre. Et donc, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des terrains de basket essentiellement, de foot essentiellement, basket et volley. Mais vous allez à peu près à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, c'est 100% de garçons et d'hommes qui utilisent ces équipements. Donc, ça veut dire que si on fait un ratio un peu, je vais droit au but, mais ça veut dire que les millions d'euros qui ont été mis payés par tout le monde, les femmes et les hommes, ne bénéficient qu'à des usagers masculins parce qu'on n'a pas anticipé les besoins et aussi comment on répartit. Il y a des villes qui disent le terrain de foot, parfois on l'enlève, il devient un espace public, ou alors on répartit les heures pour que ce ne soit pas le plus fort qui gagne et qui s'impose sur le terrain de foot. En tout cas, peu importe comment on le met en place, et l'important c'est de le penser avant de consacrer des millions, voire des milliards à des aménagements aussi importants dans la ville.
Je me demandais, pour les congés pour l'accueil de l'enfant mis en place, particulièrement dans les pays scandinaves, où ils sont bien plus élevés, où il y a beaucoup plus de jours qu'en France, est-ce que ceux-ci sont effectivement pris par le deuxième parent ?
Alors, j'ai pas les stats, mais globalement, moi, j'ai regardé sur l'Islande et sur la Suède, où il y a dans ces deux pays un congé paternité ou de l'accueil de l'enfant qui est beaucoup plus important. J'avais en tête en Islande, mais peut-être qu'il faudrait vérifier, que pour moi, les deux parents prenaient en moyenne 3 mois. Donc ça veut dire que c'était assez équitable, parce qu'en Islande, ça fait depuis les années 2000 qu'il y a au moins 3 mois pour le père. Là, on est passé à quelque chose de plus important. Mais dans les dernières évaluations qui avaient été menées, c'était 3 mois de manière équivalente par les femmes et par les hommes. Ça veut dire qu'aussi bien les femmes que les hommes ne vont pas forcément jusqu'au bout de leurs droits. Et peut-être que, en fait, s'il y a 6 mois au global, ça permet aux femmes de peut-être revenir et reprendre le travail plus tôt. Mais j'avais en tête qu'en Islande, en tout cas, et c'est pas pour rien qu'ils sont premiers, ils étaient quasiment arrivés à la même durée pour les pères et pour les mères. Peut-être qu'il y a d'autres bons exemples aussi que vous connaissez, sur lesquels vous avez une expérience à partager. N'hésitez pas, c'était dur d'en choisir 3 pour aller un petit peu au bout et sans que ce soit une liste. Mais n'hésitez pas à partager d'autres. Il y a plein d'autres bons exemples, j'imagine.
Merci pour votre intervention. Ça me faisait penser à une consultation que j'ai eue hier d'une petite fille de 9 ans qui s'est séparée de son amoureux. Et donc cet amoureux l'insultait et lui faisait des doigts d'honneur à l'école. Je me dis, disons, ça commence tôt. Et je me demandais du coup si dans certains pays, il y avait des programmes d'éducation des garçons à l'école ou... Est-ce que vous avez eu...
Alors j'ai découvert qu'en Islande, il y a un programme qui s'appelle Macho quelque chose, justement, et qui est un programme entièrement... c'est une espèce de colonie de vacances ou de centre aéré. Vous avez tout un site qui explique, si vous parlez islandais, qui explique le principe. Et l'idée, c'est justement une thématique un peu de colonie autour du féminisme, de l'égalité filles-garçon. On va dire que ça, c'est complémentaire à tout ce qui est mis en place à l'école. En Islande, j'en ai pas parlé, mais encore une fois, on n'aboutit pas à ces résultats sans rien. Il y a beaucoup plus d'éducation à l'égalité à l'école. On aurait pu aussi parler de la Suède. À la base, j'étais partie sur la Suède, mais j'ai eu quelques déconvenues sur le modèle suédois de l'éducation, qui a priori est un peu remis en question. Mais en Suède, par exemple, il y a une réflexion dans certaines écoles, pas dans toutes, mais c'est une méthode pédagogique relativement, où il y a des temps en non-mixité, justement. Après, il y a de la mixité, mais il y a des heures, par exemple, de 9h à 11h, les garçons sont d'un côté, les filles sont de l'autre côté, pour laisser... libre cours qui est mesuré aussi. Est-ce qu'on observe des comportements différents quand les filles sont seules ou quand il y a des garçons dans la pièce? Et après, il y a des temps en mixité avec une réflexion sur comment on s'adresse aux enfants, essayer de les genrer le moins possible, qu'est-ce qu'on lit aux enfants, quels jouets on propose aux enfants, pour essayer que, en gros, quand on lit des témoignages des pédagogues ou des personnes qui dirigent ces écoles, c'est de leur laisser le plus longtemps possible essayer de leur donner la plus grande liberté, fille ou garçon, par rapport au fait d'être une fille ou d'un garçon. Ils seront de toute façon pollués, influencés par la société, mais une réflexion pour les filles et pour les garçons en essayant de le mettre le plus possible à distance. Et en fait, le mettre le plus possible à distance, ça demande une réflexion et ça demande des méthodes qui sont pensées, qui sont évaluées, en Suède notamment. Mais je dis que j'ai eu un peu des déconvenues parce qu'en Suède, le modèle est un peu remis en question. Il y a beaucoup d'articles qui disent, pas sur le modèle, sur les questions de genre, mais sur le modèle éducatif suédois, parce que, à ma grande surprise, une grande partie des écoles suédoises ont été privatisées. Donc ça veut dire que même parmi les écoles primaires, collèges, lycées, il y a des groupes d'écoles cotées en bourse, donc et les parents ont un chèque de la ville et choisissent dans quelle école ils veulent mettre leur enfant. Et du coup, avec parfois des catastrophes, si un groupe scolaire qui fait faillite, du jour au lendemain, il n'y a plus d'école dans les villes et il n'y a plus de système. Enfin, la majorité des enseignants et des éducateurs dépendent de la ville. Il n'y a pas un système comme ici de l'éducation nationale au niveau national et c'est beaucoup plus lié au marché. Donc il y a beaucoup d'articles aussi qui montrent qu'il y a eu une chute un peu aussi dans les bons résultats scolaires suédois. Et du coup, ce modèle pédagogique suédois aussi, il semble circonscrit à certains groupes d'écoles privées qui sont allés dans cette voie et qui ont exploré ça, mais ce n'est pas forcément une base commune à l'ensemble du système éducatif suédois.
Oui, me concernant, j'ai des questions sur le budget genré. Il est souvent opposé que bah, le stade de foot, il est accessible à tout le monde, que le stade de basket, c'est la même chose, il est ouvert à tous et toutes. Et je voulais savoir s'il y avait des exemples de villes qui avaient pris le problème sous l'angle du budget genré, parce que donc vous développiez sur Vienne, mais je ne sais pas si ça a été pris sous l'angle de « on vote un budget paritaire » ou si les élus étaient partis sous un autre angle d'aménagement urbain, de verdissement de la ville.
Alors, pour moi, le budget genré à Vienne, il s'applique sur tous les budgets. Donc, ça va être à la fois sur les politiques sociales, enfin, pas uniquement sur l'aménagement urbain, mais sur toutes les compétences de la ville. C'est pas du tout spécifique à l'aménagement urbain, mais c'est simplement que cette réflexion sur le budget genré, elle est venue de cette prise de conscience. Elle est venue de cette prise de conscience sur les hommes et les femmes n'ont pas les mêmes pratiques de mobilité dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Hein, ça fait pas partie de la génétique, c'est sociologique, c'est un état de fait. Et du coup, bah, quand on finance des réaménagements de places, et par exemple, ça fait partie du budget genré, la ville de Vienne a introduit une notion qu'on entend un peu plus en France, l'éga-conditionnalité, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun marché public, ils ne vont pas soumissionner avec une entreprise extérieure si cette entreprise, elle ne rend pas des comptes sur la manière dont elle envisage, mais ça peut être sur tous les sujets, pas forcément sur l'aménagement urbain, mais comment elle prend en compte la question du genre dans le marché qu'elle souhaite remporter. Un peu comme aujourd'hui, on a des critères à la fois sur les questions de développement durable, comment on intègre cette question. À Vienne, c'est un critère sine qua non et qui est poussé très loin sur comment les entreprises qui postulent à des marchés publics prennent en compte cette question-là.
Et donc, du coup, si je comprends bien, l'idée pour mettre en place un budget genré dans une commune, ça serait de, non pas de partir de liberté théorique, mais de données factuelles, statistiques, pour orienter l'attribution des budgets.
Alors, le budget genré, c'est un gros dossier. Je ne sais pas s'il y a une méthode. En général, ce qui est fait, moi, dans les collectivités que j'ai vues et qui l'ont mis en place, c'est d'aller regarder dans une direction. On va commencer par une politique. Par exemple, la culture. On va regarder qu'est-ce qu'on finance comme établissement, comme politique culturelle au sens large, qui en bénéficie et qu'est-ce qu'on demande aussi aux établissements qu'on subventionne, à la fois en termes de parité, en termes d'engagement sur la question de l'égalité professionnelle. Donc ça, c'est, on pourrait qualifier de comment on applique les questions de genre. Et ensuite, qui sont les publics bénéficiaires, à qui sont les publics programmés, donc à qui bénéficie, qu'est-ce que notre argent contribue à mettre en avant. Et comment, par l'argent, on peut aussi exiger des critères de la part des théâtres, des salles de concert. Si une salle de concert, elle est 100% subventionnée par la ville, mais elle ne reçoit que des artistes masculins, bah peut-être que la ville peut lui dire, là, il y a un problème, puisque nous, nos impôts, les impôts que la population paye et nos investissements publics doivent bénéficier à toutes et à tous. On regarde votre catalogue, bah, ça ne va pas. Bah, du coup, on exige, et ça fait partie du budget genré, que dans votre programmation, vous ayez un effort de tremplin pour les groupes de femmes, que vous ayez un certain nombre de pourcentages. C'est ce que fait très concrètement le CNC. Le CNC, maintenant, il y a des critères qui sont exigés à toutes les boîtes de production, toutes les boîtes de distribution. Ça fait partie du budget genré sur qu'est-ce qu'on finance et à qui ça bénéficie. Et après, on peut introduire d'autres clauses. Par exemple, pour pouvoir bénéficier d'une subvention du Centre national de la cinématographie, les entreprises doivent se former sur les violences sexistes et sexuelles. Et c'est assez intéressant parce que c'est le numéro un qui doit venir et qui est obligé d'être dans une salle formée sur les violences sexistes et sexuelles. Donc, Luc Besson doit participer à une formation sur les violences sexistes et sexuelles et il l'a fait s'il veut que sa boîte de production soit subventionnée par l'État français pour écrire des films. Il y a une condition en face. Mais sur les budgets genrés, il faudrait en parler beaucoup plus que ça. Et il y a un certain nombre de guides et de méthodes, mais je pense que l'important, c'est de comprendre le principe. Après, sur l'opérationnel, en général, ce qu'on observe, c'est démarrer sur une politique et voir ce que ça donne et quels critères on met en place.
J'avais juste un petit exemple. Donc, je suis élue à Mélan avec la délégation égalité femmes-hommes. Et ma voisine me demandait si nous avions un budget pour ça. Alors, on n'a pas vraiment un budget, mais on a essayé au moins une petite action. C'est-à-dire qu'on a travaillé sur une cour d'école dans le quartier des Béalières, et on a constaté que dans la cour d'école, il y avait un terrain de foot qui était effectivement tout le temps occupé par les garçons. Donc on a fait intervenir un artiste qui a fait une fresque sur le thème des étoiles, du ciel, etc., et qui avait pour but donc de permettre aux filles de un peu plus occuper l'espace. Alors je ne sais pas si dans le temps ça va continuer, mais bon, c'était l'idée de départ.
Il n'y a pas besoin d'aller en Islande pour trouver des bons exemples de l'égalité femmes-hommes de manière concrète.
Voilà, on a fait aussi une deuxième chose, c'est qu'on a invité le Sébastien Leroux, qui est directeur de l'Institut d'urbanisme, qui nous a fait une conférence aux élus et aux chefs de service sur la place de la femme dans l'espace public. Donc on va creuser cette question, ça bouge.
Sur la question des cours d'école, et c'est relativement nouveau, il y a une chercheuse, elle est bordelaise, c'est pour ça que je le dis, qui s'appelle Edith Marouet-Jouls, et qui va dans les collectivités, qui va étudier, qui va interroger les enfants sur la cour d'école, sur ce qu'ils et elles aimeraient. Il y a plein de réflexions, et à Bordeaux, par exemple, toutes les cours d'école qui sont réaménagées doivent intégrer cette question-là. On sort du schéma classique. En gros, c'est le terrain de foot qui prend 90% de la cour d'école et les filles qui sont dans les coins. Et on peut penser d'autres choses aussi avec les enfants. Déjà, tous les garçons ne pratiquent pas le foot. Plein de garçons ont envie de faire autre chose et de pouvoir permettre aussi aux enfants de jouer ensemble. Donc ça peut être casser les lignes pour qu'il n'y ait pas un périmètre qui, dans les faits, est certes pas interdit dans la loi, mais qui est interdit aux filles et à tous les garçons qui ne veulent pas faire de foot, casser ces lignes-là, ou alors considérer, il y a pas mal d'écoles qui le font, que le foot c'est le matin, mais pas l'après-midi, pour laisser plus de place à d'autres jeux, à d'autres appropriations de l'espace public, et qu'il n'y ait pas 10 garçons qui monopolisent la cour d'école, qui doit bénéficier à toutes et tous, et permettre aussi à ces garçons de socialiser avec d'autres personnes, sur d'autres jeux, et d'autres manières d'investir l'espace public.
Pour revenir sur le budget genré, c'est quelque chose d'extrêmement complexe, et parce qu'extrêmement fin justement, on doit reconnaître que toutes les communes, les collectivités, on se regarde un peu les uns les autres quand même pour voir ce qu'on va faire. J'ai ma collègue de Strasbourg qui s'est lancée sur le budget genré. Et pour en revenir à Edith Marie-Jules, c'est intéressant que vous preniez son exemple parce que lors des assises de Nantes, je participais à sa table ronde. Donc nous étions trois invités sur le thème un peu ambitieux de comment faire une ville agréable. Et justement, on avait rapidement abordé toutes les deux ensuite ce sujet-là. Et je ne vais pas trahir de secret, mais elle me disait, ne perds pas de temps à essayer de faire un budget genré, c'est trop compliqué. Mais au contraire, faire comme on fait à Mélan. Alors, on n'a pas donné cet exemple, mais c'est ce que l'on fait tous dans nos communes. C'est qu'on regarde effectivement, globalement, où on dépense le plus d'argent, si on construit des gymnases, par qui sont occupés les gymnases, comment ils sont occupés, donc par des garçons, par des filles, effectivement, mais si les créneaux filles, les sports plus féminins, je vais dire au hasard le volley parce que c'est là qu'on va avoir plus de clubs, ce sont à des horaires complètement, des horaires farfelus, enfin qui peuvent pas correspondre à des collégiennes par exemple, bien évidemment que là on peut pointer, essayer de corriger de manière assez facile. C'est que lorsque l'on fait la réunion annuelle de à qui on attribue les salles et les créneaux d'horaire, eh ben on dit au club de basket masculin par exemple, bah que non, ils n'auront plus cet horaire-là. Lorsque l'on fait, moi je suis élue à la base de la commune de Vars, on a fait à la demande du club de foot un terrain synthétique qui était très très attendu depuis très longtemps. Moi je fais partie d'une équipe, c'était pas notre kiff absolu le terrain de foot synthétique, donc on a réussi à le mettre sur la ville d'à côté, c'est quand même très fort, mais on participe financièrement. Et moi j'avais demandé qu'on conditionne la création le financement de ce terrain par le fait qu'il soit aussi occupé par une équipe féminine, puisqu'il y en avait une, mais donc ça a un peu poussé, ça les a poussés, et maintenant ils sont super contents, ils font même des fêtes spéciales foot féminin, donc super. Et voilà, donc c'est comme ça qu'on met des petits moteurs. Et pour les cours d'école, bien évidemment, il suffit d'aller observer ce qui se passe dans une cour d'école. Il se passe souvent aujourd'hui la même chose qui se passait quand moi et vous étions à l'école, c'est-à-dire qu'il y a 8 types au milieu qui sont en train de se balancer le ballon. Dès qu'il y a un ballon, bah, le ballon prend de la place, c'est pas les joueurs qui prennent de la place, c'est le ballon, donc on se pousse. Et puis bah, les autres, ceux qui jouent pas au ballon, ils sont dans des petits coins. Donc comme tous aujourd'hui dans nos communes, on est en train de réfléchir à comment on fait la transition aussi dans les cours d'école, comment on désimperméabilise les sols, etc. Mais puisqu'on est en train de tout remettre à plat, eh bien aussi on a cet angle de réflexion. Donc voilà, c'est pas le budget genré, ça, mais on fait attention de plus en plus aujourd'hui à comment est-ce qu'on va étudier ce point-là. Et pour en revenir aux conférences, ne croyez pas que ce soit extrêmement simple d'organiser ce genre de conférences. Pensez pas, évidemment, mais non pas pour trouver du monde, etc., mais pour faire admettre par l'administration de manière générale à l'utilité, de l'utilité de ce type de conférence. Et que là encore, il faut de la volonté politique. Alors, moi, j'ai de la chance d'avoir un président qui est très féministe et une équipe majoritaire très féministe, mais c'est pas le cas partout et que d'autres ont besoin de se battre bien plus que moi encore pour obtenir ce genre de choses.
Merci beaucoup, Margot Collet.
Merci à vous.
Vous venez d'écouter Margot Collet, consultante et formatrice sur l'égalité femmes-hommes. Dans le cadre du cycle de conférences de Grenoble-Alpes-Métropole, le féminisme fait le printemps. Retrouvez les autres conférences sur grenoblealpesmétropole.fr.